Il est 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Non aux grands projets inutiles contre l'A69, une autre voie est possible. Slogan brandi par les manifestants dans les rues de Toulouse aujourd'hui pour réclamer une nouvelle fois l'arrêt du chantier de l'A69, cette autoroute qui doit relier Castres et Toulouse. Un référendum pour lutter contre le crime organisé en Équateur. Les électeurs appelés à se prononcer aujourd'hui sur une série de mesures de sécurité dans un pays qui enregistre le taux d'homicide le plus élevé d'Amérique latine. Et puis nous irons à la Biennale de Venise visiter la prison des femmes qui accueille le pavillon du Vatican cette année pour la 60e édition de la manifestation d'art contemporain. Entre 1500 et 5000 personnes rassemblées à Toulouse aujourd'hui contre un projet qu'ils jugent écocidaire, l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. À l'appel d'une dizaine de collectifs, partis de gauche et d'associations, les opposants ont défilé jusqu'au palais de justice pour réclamer l'arrêt des travaux lors d'une manifestation autorisée par la préfecture de Haute-Garonne mais très surveillée et qui s'est déroulée, Morgane Clarefait, sans incident.
C'est la première mobilisation de Sylvie contre le projet d'autoroute.
Comme je suis toulousaine, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de venir.
Car aller sur le chantier, pour elle, c'était trop risqué.
J'ai un petit peu peur de toutes ces violences, effectivement. Donc à Toulouse, ça fait moins peur.
Dans la haie d'honneur pour les militants qui arrivent après avoir fait Castres-Toulouse à vélo, certains sont même là en famille, comme Cécile.
Avec mes enfants, c'était en effet plus facile de venir ici. Je ne les aurais pas emmenés dans un lieu risqué où je ne sais pas comment ça pouvait se passer. Là, je sais que voilà, il y a aussi ce côté bon enfant contre ce projet pour défendre le vivant.
Nora et Maëlle, 13 et 10 ans, acquiescent.
Cette route, c'est cher, je pense, pour les gens qui vont passer. Puis après, il y a le côté environnement.
Et je viens manifester pour pas couper les arbres.
Touche pas à nos arbres, ont-ils écrit sur leur pancarte. Un peu plus loin, Stéphane se réjouit de voir autant de monde.
Une mobilisation à Toulouse, ça permet de voir un peu l'ampleur de ceux qui s'opposent à la 69. Il y a une lutte judiciaire. Le chantier est arrêté, mais il faut aussi une mobilisation citoyenne derrière tout ça.
Alterner les manifestations en ville et les actions coup de poing sur le chantier, c'est désormais la stratégie pour les prochains mois.
Morgane Clarefait pour France Culture et contre ce projet d'A69. Trois associations environnementales ont déposé plainte jeudi dernier pour pollution de l'eau contre le concessionnaire de l'autoroute, la société Atosca. Elle a d'abord été interdite par la préfecture avant que l'interdiction soit suspendue par la justice. La marche contre le racisme et l'islamophobie à Paris a rassemblé plusieurs milliers de participants cet après-midi à l'appel d'une cinquantaine d'organisations. Entourées d'un important dispositif policier, les manifestants partis de Barbès viennent de rejoindre la place de la République. Vendredi, le tribunal administratif a estimé que l'interdiction de cette manifestation portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Annoncé l'année dernière par le gouvernement, le durcissement des conditions d'accès aux aides familiales vient d'être publié au journal officiel. À partir de l'année prochaine, il faudra avoir résidé au moins 9 mois en France et non plus 6 au cours de l'année civile pour pouvoir bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse. Le gouvernement espère ainsi lutter contre la fraude sociale. La Russie affirme avoir pris le contrôle d'une localité dans l'est de l'Ukraine, Bogdanivka, dans la région de Donetsk. Signe donc que la pression des forces russes s'accentue dans l'est de l'Ukraine. D'où le soulagement de Kiev après le vote de la Chambre des représentants aux États-Unis hier après des mois de blocage. Les élus américains ont voté une nouvelle aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Une aide qui devrait être définitivement approuvée mardi lors d'un vote au Sénat américain à majorité démocrate. De son côté, l'Ukraine affirme ce soir avoir frappé un navire russe en Crimée annexée. Les États-Unis qui poursuivent également leur soutien militaire et économique à Israël. Car hier soir, la Chambre des représentants a également approuvé une aide de 17 milliards de dollars à l'État hébreu. Le Hamas y voit un feu vert pour agresser les Palestiniens, tandis que l'armée israélienne a de nouveau bombardé la ville de Rafah aujourd'hui, au sud de la bande de Gaza. 13 millions d'électeurs appelés aux urnes en Équateur aujourd'hui. Le pays sud-américain est confronté à une crise sécuritaire sans précédent, aggravée par l'évasion en janvier dernier du chef de l'un des cartels les plus puissants. Le président Daniel Noboa organise donc un référendum sur une dizaine de mesures, dont la plupart visent à lutter contre le crime organisé. Les précisions d'Éric Sanson, correspondant de RFI à Quito.
Autoriser l'extradition de ressortissants équatoriens, permettre l'intervention des forces armées dans la lutte contre le crime organisé et aggraver les peines en cas de crime grave, les questions liées à la sécurité sont au cœur du vote de ce dimanche. Après l'assassinat de trois maires ces dernières semaines, les Équatoriens ont compris que la guerre actuelle contre les gangs n'était qu'un demi-succès, selon l'analyste Gustavo Hich.
La présence des militaires dans les rues et le contrôle des prisons a donné une fausse sensation de sécurité. Mais cette perception est en train de changer au vu des derniers événements violents qui contredisent le discours officiel.
L'an dernier, près de 8000 morts violentes ont été enregistrées en Équateur, le taux d'homicide le plus élevé d'Amérique latine. Cela a provoqué une prise de conscience de la population, selon le général Paco Moncayo, ex-chef de l'état-major des forces armées.
Ce pays est devenu un narco-État gouverné par la narcopolitique et son pouvoir est toujours important.
Face à l'opposition des indigènes et de la gauche, le président Noboa a fait de ce référendum une étape centrale pour briguer la réélection.
Et à un millier de kilomètres de là, en Colombie, Medellín n'est plus le centre du narcotrafic. En 15 ans, la deuxième ville colombienne est devenue une des destinations les plus branchées d'Amérique du Sud, prisée des nomades digitaux, mais également des touristes sexuels. Avec un tourisme en hausse de 56% l'année dernière par rapport à 2019, le phénomène s'est même accentué depuis la fin de la pandémie. Et si en Colombie, la prostitution est légale, l'exploitation sexuelle des mineurs ne l'est pas. Alors face à l'explosion du nombre de signalements, le maire de Medellín met en place un plan d'urgence, Najat Benrabah.
La police est arrivée dans cet hôtel de Medellín parce qu'un citoyen a dénoncé un cas d'exploitation sexuelle, celui d'un Nord-Américain avec deux filles mineures de 12 et 13 ans dans une chambre d'hôtel.
Fin mars, comme la journaliste de la chaîne nationale Caracol TV, tous les médias ont fait la une de leurs journaux sur cette arrestation. La polémique a rapidement pris de l'ampleur quand le suspect a finalement réussi à s'évader et prendre un avion pour les États-Unis. Ce qui a fait réagir le maire de Medellín, Federico Gutiérrez, en poste depuis 3 mois.
À partir d'aujourd'hui, nous suspendons de manière temporaire la possibilité de proposer ou demander un service sexuel dans l'espace public pendant 6 mois, dans tous les espaces inclus dans le décret municipal, c'est-à-dire autour du parc de Poblado, autour du parc Hieras, de la rue Provenza et dans les alentours de cette zone.
En plus de cette interdiction, pendant un mois, le maire a aussi réduit les horaires des restaurants, des bars et des discothèques jusqu'à 1h du matin.
On ne peut pas interdire la prostitution, c'est un travail protégé par la loi et même la Constitution, mais on peut prendre des mesures pour protéger ceux qui travaillent dans ce secteur, car maintenant il y a des groupes de criminels qui se sont installés dans ce quartier et contrôlent la zone. Des groupes comme la Terraza, la Raya et Robledo. On parle de trafic d'êtres humains.
Le thème de l'exploitation sexuelle n'est pas nouveau en Colombie. La différence aujourd'hui, c'est l'ampleur du phénomène, visible dans plusieurs villes du pays, outre Medellín, comme Bogota, Cartagena, Santa Marta ou Barranquilla.
Le reportage de Najat Benrabah, correspondante de France Culture en Colombie. La 60e Biennale d'art contemporain a débuté hier à Venise. Parmi les 87 États représentés, on retrouve le Vatican, qui a installé son pavillon dans la prison pour femmes. Cet ancien couvent accueille aujourd'hui 80 détenus condamnés à de longues peines. Parmi elles, une vingtaine de volontaires ont été associés à cette exposition qui présente les œuvres d'une dizaine d'artistes et assure donc des visites guidées, Bruno Duvic.
Drôle d'ambiance pour une visite artistique. Contrôle d'identité, téléphone dans un casier. Marcella est détenue ici depuis un mois et demi, elle est colombienne. C'est elle qui nous guide vers un long corridor extérieur entre le bâtiment de la prison et le mur d'enceinte. Y sont accrochées des pierres de lave sur lesquelles l'artiste libanaise Simone Fatal a fixé des poèmes de prisonnières.
Des choses dites dans un moment de tristesse, mais aussi de joie.
Dans la cour de cet établissement, une installation en néon dessine une phrase que voient les femmes le soir derrière leurs fenêtres à barreaux. Nous sommes avec vous dans la nuit. On pénètre dans une grande salle couverte de peintures végétales, modèle préparé par l'une des artistes associées. Les filles ont fait les peintures, précise Marcella. C'est le parloir.
Ce lieu a un sens profond. La famille te redonne de l'espoir.
Le temps de passer devant les peintures de Claire Tabouret, d'après photos des proches des détenus.
Ici, tu vois, c'est la photo de mon fils.
La visite s'achève dans l'ancienne chapelle. De grandes lianes colorées, tressées par la brésilienne Sonia Gomez, invitent à regarder au ciel. C'est le moment des au revoir.
Ce projet nous a donné l'opportunité d'être vus aux yeux du monde comme des artistes.
On quitte la prison. Sur la façade, l'Italien Maurizio Cattelan a laissé une grande fresque, deux pieds qui semblent abîmés par un long chemin de vie plein d'accidents.
On termine avec un mot de météo et des averses attendues demain sur le nord et l'est du pays et quelques flocons sur les reliefs. 0 degré, pas plus, attendu au réveil des Hauts-de-France à la région centre. Comptez 1 à 6 degrés plus au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.